d'être tous venus, c'est très sympathique. Oui, Dima, merci. Je me présente, je suis Jean-Marc L'Officier, le cofondateur avec Philippe Ward des éditions Rivière Blanche. Je vais d'abord vous présenter les personnes qui ont gentiment prêté leur temps pour cette table ronde. Donc, à l'extrême opposé, donc, Philippe Ward. Philippe Ward est un auteur qui habite dans l'Ariège et qui a, dont le premier roman, Artae, avait été originellement publié par Silibris. Et c'était dans les années 90 qu'elle a dit
97.
Nous avions entamé une correspondance amicale, parce qu'à l'époque, j'habitais à Los Angeles, en Californie. Et j'avais même organisé, quand j'ai lancé ma micro-édition Blackout Press aux États-Unis en 2003, j'avais envisagé, d'ailleurs on l'a fait, de faire traduire l'Artae pour être publié aux États-Unis. J'ai fait la connaissance de Philippe en 1999 lors d'un voyage en France. Et puis quand on a décidé de revenir s'établir en permanence en France fin 2004, début 2005, Philippe nous a, c'était d'ailleurs la première, après le premier festival de Sèvres, donc exactement 10 ans. Philippe nous a gentiment, Philippe et son épouse nous ont gentiment hébergés pour trouver une maison. Et de fil en aiguille, on avait l'intention de monter, de transplanter le modèle de Blackout Press en collection française, baptisée Rivière Blanche, bien sûr, pour reprendre le flambeau du fleuve noir qui a bercé notre jeunesse. Et ben, il s'est imposé que Philippe était le directeur de collection idéal pour gérer cette entreprise. Et c'est donc comme ça que nous sommes venus à collaborer. Et dans un geste particulièrement héroïque, nous avons immédiatement publié deux livres, un de moi et un de lui, donnant ainsi, annonçant ainsi le ton de la future collection. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. À côté de Philippe et notre grand ami Michel Rigaud, dit PJ Hero, qui a été en fait le troisième livre publié par Rivière Blanche et qui nous a fait vraiment l'honneur, le grand honneur de nous donner sa confiance, vu qu'après tout, la maison d'édition à l'époque n'avait publié que deux ouvrages par Jean-Marc L'Officier et Philippe Ward, et puis un certain François Darnaudet, mais pas quelqu'un de très, très recommandable dans l'absolu. PJ Hero nous a légitimisés, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et à ce jour, la Fédération de la Main, qui a marqué son grand retour sur la scène éditoriale française après une bien trop longue et injuste et irritée absence, reste une de nos meilleures ventes à ce jour et certainement un de mes romans préférés de Rivière Blanche. Nous avons su lui rendre honneur immédiatement, le publiant amputé de son dernier chapitre, par erreur, ce qui fait que PJ nous en a voulu tellement qu'il nous a confié 50 romans par la suite. Donc PJ Hero. À côté de PJ Hero et mon ami Jean-Michel Archimbault, qui figure à cette table ronde tout à fait légitimement en tant que repreneur et comment dire, porteur du flambeau de plusieurs grands auteurs du fleuve noir dans le temps. Notre collaboration a commencé quand j'ai eu l'initiative, avec l'accord bien sûr et l'appui de Jean-Luc Rivera et l'accord de l'héritier de Maurice Lima, de décider de faire un dernier baroud d'honneur en honneur au chevalier Cogdor de notre jeunesse. Et nous avons publié une trilogie de nouvelles aventures du chevalier Cogdor. Ayant beaucoup de travail, j'ai cherché quelqu'un de capable pour m'aider à écrire le roman, et puis n'en ayant pas trouvé, j'ai choisi Jean-Michel Archimbault.
Très bien.
Voilà, dont le métier en tant qu'exportateur d'armes bizarres était le prédisposé à développer l'œuvre de Maurice Lima. Depuis, Jean-Michel s'est distingué solo, si j'ose dire, avec un magnifique hommage à ce grand auteur qui était J.E. Delemay, un bouquin qui, à mon avis, n'a pas reçu ni l'attention ni la reconnaissance qu'il mérite sur la scène de la science-fiction française, je trouve que c'est honteux, qui s'appelle Interco, que je recommande très vivement. Et plus récemment, le mois dernier, un vibrant hommage à Richard Bessière, puisqu'avec l'autorisation de Madame Bessière, Jean-Michel, qui avait déjà travaillé avec moi sur une mouture humoristique d'une aventure de Sidney Gordon Ne touchez pas au Borloc, a repris un roman de Bessières qui s'appelait N'accusez pas le ciel, et l'a refondu, réactualisé, réinterprété, avec un brio vraiment qui force l'admiration. Le bouquin a eu l'heure de recevoir d'excellentes critiques. Et donc Jean-Michel représente en quelque sorte ici les mânes de Richard Bessières, Maurice Limin et J.D. Lemay, qui sont certainement parmi les plus grandes flammes du fleuve noir. À côté est Vincent Laïc, qui est un illustrateur et artiste de talent toulonnais dont vous avez pu admirer l'exposition de peinture sur les murs. Vincent est un de nos fidèles. Rivière Blanche, où sa maison mère de la Côte Presse n'a hélas pas beaucoup de moyens. Quand on vend les romans, n'hésitons pas, on arrive souvent à les compter sur les doigts de 3 voire 4 mains. Il est difficile de s'offrir les talents d'illustrateurs aux tarifs légitimes qu'ils ont droit de demander. Et donc nous piochons souvent dans les portfolios d'illustrations préexistantes, libres de droit. Mais ça demande quand même un degré de générosité. Vincent nous accompagne depuis des années et son talent et ses images ont servi de couverture à de nombreux livres que nous avons publiés, rappelant que Rivière Blanche n'est pas seulement les auteurs, mais également les illustrateurs, et on s'honore non seulement de la confiance et de la collaboration de Vincent, mais également de gens comme Stéphane Martinière, Michel Bordery, et puis des auteurs, des illustrateurs étrangers, polonais, américains, argentins. Pour nous, c'est une grande chose que de bénéficier de la confiance de ces artistes. En dernier, nous avons Jean-Daniel Breck, qui représente un autre chapeau de Rivière Blanche, qui est finalement notre diversité. Vous vous souvenez que le fleuve noir avait bien sûr des collections les plus connues, bien sûr, Anticipation, Espionnage, Spécial Police. Vous vous souvenez peut-être de la collection Feu, certainement Angoisse. Peut-être certains d'entre vous se rappellent de la collection L'Aventurier, qui n'a pas duré très longtemps, mais qui a quand même publié des ouvrages marquants. Personnellement, j'avoue un faible pour les histoires de l'ombre d'Alain Page. Jean-Daniel représente un peu cette facette du fleuve noir, de Rivière Blanche, c'est-à-dire qu'avec la collection Baskerville, il a repris un peu le flambeau de la collection L'Aventurier. C'est-à-dire qu'il publie des ouvrages de littérature anglo-saxonne qui sont à la limite de l'aventure, des fois du fantastique, policier, etc. Donc voilà, écoutez, je vais un peu passer maintenant le micro, on va revenir à Philippe, et puis un peu demander à chacun de nos amis qu'est-ce que les 10 ans de travail, enfin dans le cas de Jean-Daniel Breck, seulement quoi, 3 ans, 4 ans ?
4 ans.
4 ans, quand même, le temps passe vite, oulala. Qu'est-ce que cela représente pour eux d'avoir travaillé pour Rivière Blanche et quelles impressions ils en ont retirées ? Philippe ?
Ben moi, je vais vous présenter Jean-Marc L'Officier, quand même. Donc, normalement, j'en ai pour une heure, je dois tout dire, scénariste, on va faire simple. Il a vécu 30 ans à Los Angeles, scénariste de BD, scénariste de films, tout ça. Il a écrit un monument qui est l'encyclopédie de la science-fiction française. Malheureusement, il est en anglais. Malheureusement, il est introuvable. Ça fait combien ? 900 000 pages. Il y a tout sur la science-fiction française. Des pièces de théâtre absolument inconnues, des pièces de radio inconnues, et tout, bien sûr, la littérature. Et c'est grâce à cet ouvrage qu'on a fait la connaissance, parce que j'ai dû lui faire à peu près, à l'époque, 500 ou 1000 scans de couverture pour cet ouvrage. Et un jour, donc, il m'a lancé l'idée de la Rivière Blanche. J'avoue que moi, pendant 20-30 ans, j'ai toujours navigué autour de l'édition, autour de la science-fiction. J'ai toujours eu envie de m'impliquer dedans. Et là, j'ai une chance énorme. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout éditeur, je ne suis pas du tout directeur de collection, je n'ai pas du tout un cursus universitaire comme ça. Je n'ai même pas un métier qui y ressemble, puisque je suis fonctionnaire territorial, responsable informatique. Ça n'a absolument rien à voir. Et quand on a lancé ça, il a eu deux idées de génie. Et quand j'ai dit génie, c'est premièrement ce qu'il appelle le branding. J'adore ce mot. Branding, c'est-à-dire que tout le monde connaît la bouteille de Coca. C'est de Coca, je la pose dans n'importe quel pays, tout le monde va dire Coca. Et là, il a dit, tout le monde va connaître la maquette du fleuve noir, celle-là. Alors au début, on avait hésité avec la fusée, mais ce n'était pas tellement pratique. Mais la maquette blanche et bleue, on a dit, celle-là, au moins, quand on sera dans des salons, il y aura 100 vieux couillons qui vont s'arrêter, qui vont la prendre, et qui vont dire, mais c'est, je connais. et puis le nom Rivière Blanche. Et la seconde idée de génie, c'est vraiment la façon de travailler qu'il a. J'adore ce mot, c'est son business plan, vraiment américain. C'est-à-dire, on va bénéficier de tout ce qui est moderne, l'impression à la demande, et on ne va pas se prendre la tête. C'est-à-dire qu'avec Jean-Marc, moi, je ne suis pas derrière un comptable qui me dit combien c'est vendu là, ça ne va pas là. Je ne sais pas, chez moi, mon épouse qui me dit qu'est-ce que c'est ces 5000 livres qui sont en stock dans la chambre là. Non, je n'ai pas de stock et tout. Donc, on a bénéficié des moyens modernes, impression à la demande. Un truc tout bête aussi, c'est PayPal. C'est idiot à dire, mais je tiens à le dire. PayPal, c'est la trésorerie qui rentre de suite. Et pour une petite micro-édition, c'est vraiment de l'argent qui nous tombe et ça nous permet de payer l'imprimeur. Donc tous ces moyens modernes ont fait que la Rivière Blanche, qui au départ devait durer quelques années, même pas quelques mois, parce qu'on était parti sur un an, il avait d'ailleurs la formule qui est très bien, c'est-à-dire la Rivière Blanche, le dernier éditeur avant la poubelle. On était parti là-dessus au départ. Et, parce que ce qu'il ne vous a pas dit, c'est pourquoi il a lancé la Rivière Blanche. Ça, il ne vous l'a pas dit. C'est qu'il a écrit un roman de science-fiction qui traînait, qui aurait dû être publié au Fleuve Noir, et qui traînait. Un jour, sa mère lui a dit, mais écoute, t'es éditeur, tu peux quand même t'éditer. Mais comme il n'a pas voulu être tout seul, il a dit, Philippe, t'en as bien, toi aussi, qui traîne. Et à partir de là, moi, je savais que tous ces éditeurs, tous ces auteurs au Fleuve Noir avaient des manuscrits, parce qu'on me l'avait dit. Je savais que c'était des manuscrits que, à l'époque, personne ne voulait, et qu'on pouvait leur donner une chance à ces auteurs qui m'avaient fait rêver, moi, pendant des années. Daniel Piret, Massandré Réjean, Richard Bessière, tous ces auteurs, je savais qu'il y a. Et alors, petit à petit, je me suis dit, on va peut-être jouer là-dessus. Donc, PJ a été le premier, je veux dire que là, ça a été la révélation. C'est moi qui lui ai saboté son premier volume, le dernier chapitre, parce que je ne savais pas du tout faire. Je débarquais là-dessus. Et après, d'autres auteurs sont venus. Je veux dire, quand on reçoit un coup de téléphone de Richard Bessière qui vous dit, oui, je voudrais. Je suis resté sur le cul. Heureusement que j'étais assis ce jour-là. Parce que M. Bessière vous téléphone et vous dit, c'était vraiment un grand moment pour moi. Et le deuxième point de Rivière Blanche que j'ai toujours voulu défendre et que Jean-Marc m'a donné entière liberté, c'est comme le fleuve, publier des premiers auteurs. Je veux dire que là, on les voyait défiler. Quand je les regarde, quand je regarde mon truc, je vois que j'ai des grands anciens, j'ai des anciens, et puis j'ai pas mal de jeunes auteurs à qui je vais donner une chance. À qui je vais dire, parce que j'aime, c'est leur roman, à qui je dis, mais voilà, moi, ce roman, il me plaît, je suis un petit éditeur, tu n'auras pas à la gloire, vas-y, moi, je te publie. Et tous, je veux dire, pratiquement tous, on dit, banco, on y va. Et aujourd'hui, on a 10 ans, c'est plus de 250 livres, il faut gérer 150 auteurs, il faut vraiment, là, il y a des fois où je me dis, je les tuerai tous, je hais les auteurs, je les hais. Parce qu'en plus, il y a les moyens modernes. Vous savez qu'avec les mails, ça va vite. On vous écrit comment tu n'as pas répondu, je t'ai envoyé le mail hier. Donc, je paye les autres. Et donc, voilà, Rivière Blanche, ça a été ça. C'est-à-dire donner, comme on parle de la poubelle, c'était vraiment ça. Que les romans, tous ces romans qui n'auraient pas été là, leur donner à notre. Que le public les découvre. Et donner aussi à ces jeunes auteurs là-dessus. Et on est parti, on a publié un par mois, deux par mois. On a lancé la collection blanche, donc c'était science-fiction. Après, on est passé à la collection noire. Parce que je suis un fan de fantastique, donc on est passé à l'angoisse. Et puis après, comme j'aime bien les nouvelles, j'ai dit on va sortir des anthologies. Les anthologies, plus personne n'en veut maintenant. Je veux dire qu'on regarde les. Or, moi, je veux dire que tous les mois ou tous les deux mois, j'ai un thème, une anthologie. Et pareil, dans les anthologies, des jeunes auteurs peuvent publier leur première nouvelle. Des autres, des grands anciens, publient une nouvelle. Donc tout ça, pour moi, c'est la Rivière Blanche. C'est 10 ans, 250 livres, c'est 150 auteurs. C'est maintenant aussi, parce qu'il a oublié, c'est toutes les BD. Alors là, je ne suis pas du tout un spécialiste, je laisserai, parce que là, j'avoue que Strangers, Kids, Puma, je ne connais que Zambla. Mais on réédite Zambla aussi. Toi. Mais ça fait partie aussi d'un tout. On est un tout. Donc on arrive à survivre, justement, parce qu'on a un business plan qui est très simple, c'est qu'on ne gagnera jamais d'argent, mais on ne perdra pas. Et à partir de là, moi j'ai une chance énorme, je publie ce que j'aime. Jean-Marc n'est pas derrière. Des fois, il me dit, ouais, bon. Mais bon, mais jamais il me dira, oh non, celui-là, tu n'aurais jamais dû le publier. Ça, pour moi, c'est la liberté totale. Je publie des chants vraiment que personne n'aurait voulu, mais que moi, j'adore et que je défendrai toujours. Alors, j'ai cette phrase, je publie ce que j'aime et je vous emmerde. Ça, c'est ma phrase qu'on me dit, parce que j'ai décidé de ça. Et c'est pour ça, pour moi, c'est ça, ma liberté, c'est mon esprit. Et après, je veux dire, tous les auteurs qui sont là, ou même Baskerville, où je n'ai rien à voir, mais je me régale à les lire. Et c'est ça qui est bien pour moi, c'est que même, je veux dire, le pire roman que j'ai publié, je veux dire, le pire, c'était un Jimmy Dieu. C'était le roman de Jimmy Dieu. C'était, bon. Oui. Je reçois ça d'un jeune auteur, jamais je le publie. Mais c'est Jimmy Dieu. Moi, j'ai une affection énorme pour Jimmy Dieu. Mais moi, publier un Jimmy Dieu, c'est important. Publier deux inédits de Richard Bessières, qui était le numéro un au Fleuve Noir, quand je l'ai tenu dans la main, j'ai frissonné. Je le dis franchement, j'ai frissonné. J'ai frissonné trois fois. Je veux dire, mon premier roman, le roman de Richard Bessières et le roman de Jacques Sadoul. Quand vous vous rendez compte aussi que Richard Bessières m'a donné son amitié, m'a donné, il a dit Badbaco, que Jacques Sadoul a fait pareil, je me dis c'est bon. Je me dis c'est bon. Et quand j'ai à côté de moi P. Giraud, là, que c'est connu il y a 10 ans, et que maintenant je me dis c'est bien, j'ai publié 5-6 de ses romans, je suis fier des hommes. Je suis fier là et je suis heureux. Je peux dire que je suis un directeur de collection heureux parce qu'il fait ce qu'il veut. Et tout ça, c'est grâce à une personne, c'est Jean-Marc. Plus sous le business plan, plus sous les moyens modernes. Après, c'est vrai que c'est du travail. Après, c'est vrai que quand vous passez une demi-heure tous les jours à la poste, il y a des fois, j'en ai ras le bol. Quand je fais des enveloppes, des fois, j'en ai ras le bol. Quand je travaille avec des auteurs, des fois, j'en ai ras le bol. Mais le plaisir, il est là. Je fais ça uniquement par plaisir et par passion. Et pour moi, c'est ça, là, la rivière blanche. On est peu, mais au moins. On est là en 10 ans. Je suis fier de mon catalogue. Je n'ai à rougir de personne. On m'a tapé dessus, mais je m'en moque. Il y a des... Mais au moins, je n'ai à rougir de personne et je suis fier de ce que j'ai publié. Mais ça, je n'aurais pas pu le faire, ni sans les moyens modernes, ni sans Jean-Marc Officier, ni surtout sans les auteurs qui m'ont fait confiance. Il y en a dans la salle, il y en a là, il y en a à côté. Et, je veux dire, tous m'ont fait confiance un jour ou l'autre, même si des fois, on a dit, mais au moins, ils m'ont fait confiance. Tu m'as fait confiance, Michel ? Eh ? Tu veux rire ? Moi, je veux dire, là, c'est pour ça. Je veux dire, tout cela, c'est pour ça que la rivière blanche va continuer encore. Qu'on a encore un programme de publication et qu'on continue cette aventure un peu folle, un peu en marge du milieu. Mais je vois qu'on arrive toujours, que d'autres aussi arrivent à nous suivre, à voir. Il y en a qui sont là, il y a Trash avec Le Gore, il y a Patrice Lajoie avec tous ses ouvrages russes, soviétiques et tout ça. Donc on arrive à peut-être donner un élan à d'autres éditeurs et aussi à d'autres auteurs. D'autres aussi comme Jean-Michel Archambault, qui n'est pas aussi que le. Le continuateur, il a quand même écrit Shinta, qui est pour moi un des plus beaux space opéra, et puis un roman fantastique aussi. Donc voilà, chacun apporte sa pierre, ou Jean-Daniel Breck, qui fait tout à Baskerville. Baskerville, là, c'est idéal pour moi, j'ai pratiquement rien à faire à part les enveloppes. Il porte, il donne tout à Jean-Marc, il s'occupe de tout, il sort une collection pareille, qui n'aurait jamais vu le jour peut-être ailleurs. Après, on va terminer les illustrateurs, parce que bon, là, c'est pas mon domaine, l'illustration, c'est pas... Mais c'est vrai que, qu'est-ce qu'on voit en premier dans un ouvrage, c'est l'illustration. On prend l'illustration à la retourne. Et moi, je dis que les illustrations, pareil, elles ont une importance énorme dans un ouvrage. Quand je les vois, le jour, je les ai mis tous sur ma table, là. C'était joli, c'était un véritable puzzle, mais ça, c'est vrai que ça... Et puis, ça aussi, tous ceux qui nous aident, parce que là aussi, je veux dire, la rivière blanche, on est là, c'est deux personnes, il y a des correcteurs. Il y a des lecteurs, il y a des libraires, il y a des gens qui scannent, il y a des traducteurs. Il y a des gens là que je leur ai donné un manuscrit de Max-André Réjean, affreux, qui vont me le scanner. Mais pour moi, c'est fabuleux parce que là, il est au fond. Là. Et ça va être un travail énorme. Mais des gens qui scannent, qui relisent et tout ça, qui corrigent, il y en a un autre ici qui corrige et qui m'ont fait travailler sur le Sadoul qui est fabuleux. Même il a vu des erreurs qu'avait écrit Jacques Sadoul. Mais c'est tout ça, c'est toutes ces personnes qui autour de nous ont accepté. Bénévolement, parce qu'ils ne sont pas payés, ils ont quelque chose, un autre à lire des fois, mais bénévolement, de participer à cette aventure. Et c'est une aventure commune. Commune à tout le monde, et commune même à des libraires qui vont se battre, et pourtant c'est un truc. C'est quelqu'un aussi comme Jean-Luc Rivera, qui depuis Sèvres va nous aider. Le premier Sèvres, il n'aurait pas été obligé d'inviter PJ ou d'inviter la Rivière Blanche. Il l'a fait, et tous les ans, il y a des auteurs Rivière Blanche qui sont là. Mais c'est toutes ces personnes qui, pour moi, m'aident. Nous aide, voilà, et font que la rivière blanche arrive à 10 ans. Je ne sais pas si on fêtera nos 20 ans, mais on y est parti. Maintenant que j'ai assez parlé, je vais laisser aux autres, voilà. Débrouillez-vous. Ils ne veulent pas parler, vous voyez, j'ai dit.
Tu parlais de confiance tout à l'heure. En fait, moi, c'est tout à fait l'inverse en ce qui me concerne. J'étais très très surpris qu'un éditeur me fasse confiance. J'étais dans le creux de la vague depuis que le fleuve noir. avait rajeuni ses cadres, tellement rajeuni d'ailleurs que bah, ils ont fini par plus exister. Quoi. Et puis, ils ont pas choisi. Enfin, ils ont choisi les oh non, j'allais dire les gens.
Non. Il y en a qui étaient bien. Puisque c'est grâce, ouais. C'est grâce à Michel Pagel que c'est connu.
Ah oui, mais je ne parle pas des auteurs. Je voulais parler des cadres. Des cadres, plus noir. Bon, c'est un échec très poignant, le fleuve noir, parce qu'il a lancé, pour moi, il a lancé la SF en France. Et on ne lui a jamais rendu l'hommage qu'il méritait, quoi. Même aujourd'hui, à une certaine époque et aujourd'hui encore, il est bon ton de détester le fleuve noir ou de dire les pires choses à leur propos. Bon, quoi que ce soit, ils ont eu le mérite d'exister. Au-delà de toute méchanceté, ils ont existé. Et ils ont lancé une pub, ils ont lancé une façon de... Oh, je mélange les pinceaux.
C'est parce qu'ils ont lancé la littérature populaire.
Ouais, c'est ça, ouais.
Parce qu'ils ont lancé ça, ils ont continué, et puis aujourd'hui, le fleuve noir, bon, ils ont une autre vision. Parce qu'ils sont un grand groupe, il faut aussi penser ça, c'est maintenant devenu un grand groupe, dirigé par des Italiens, et donc qui sont vraiment dans un autre monde. Aujourd'hui, le livre est devenu une boîte de petits pois. Donc on va vendre une boîte de petits pois. C'est comme ça. Bon.
C'est comme ça. En l'occurrence, c'est pas le fleuve qui me doit quoi que ce soit, c'est moi qui dois tout au fleuve. Parce que le fleuve m'a aidé à démarrer. C'était déjà ça, je pouvais leur être reconnaissant de ça. Mais bon, c'était simplement une histoire de quelques années. Et le véritable démarrage, c'est les relances. Parce que Philippe m'a fait confiance. Enfin, Philippe est mon officier à moi. C'est difficile l'écriture, l'édition. C'est difficile. Comment doit-on, où doit-on faire la différence entre les éditeurs et les auteurs? Les éditeurs, on a souvent l'habitude de dire que l'édition représente totalement sur eux. En fait, c'est pas vrai. Les auteurs ont l'habitude de dire que l'édition repose sur eux, c'est pas vrai non plus. Tout le monde a sa place, et la place de chacun est aussi importante. Mais si, quelquefois, en se mettant à rêver un petit peu comme ça, on arrive à des scènes troublantes, quoi. La première fois que les éditeurs se sont rencontrés, ils étaient 30-40 comme aujourd'hui. Ils présentaient des petits romains, des petits grecs, des petits anglais peut-être, malheureusement. Enfin, j'aime pas les anglais. C'est pas de vous.
T'es pas le seul.
Ça fait plaisir quand on dit t'es pas le seul. Mais c'est quand même foutrement troublant de prendre cet exemple de cette assemblée de 50 ou 60 de ces mecs dont je viens d'évoquer l'existence éventuelle. Puis ils étaient rien tous ensemble. 50 ou 60 mecs, c'est rien du tout dans l'histoire de l'humanité. Et regardez la fabuleuse histoire de l'édition, la fabuleuse histoire du livre. Putain, notre civilisation repose sur le livre. On a l'air de l'oublier, mais la civilisation. Alors, il y a deux trucs qui me stupéfient, moi. C'est la civilisation, le livre, l'histoire du livre, Et l'histoire du langage. Vous imaginez la scène où le premier mec a désigné le feu ou brûlait une claquette ou quoi que ce soit, et a dit un mot, il a dit un son. Et puis un autre mec a dit le même son, en désignant la même chose, une demi-heure plus tard. Mais bon, c'était tranquille pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, à nouveau, il y a un gars qui a parlé de ça, qui a fait son tabac parce que il a inventé la mémoire. Et puis, un jour, un type a dit un mot en regardant les filles. Là, ça s'est mieux présenté quand même. Et puis chacun y a mis du sien. Mais ce qui était effarant, c'est que ça se passait aussi bien en Grèce qu'en Italie du Nord, que même en Italie du Nord, mais même en Angleterre. Même si c'est pour l'anglais. En fait, ils ont simplement profité de ce qui existait, comme tout le temps, toujours. Bon, ils l'ont très bien fait. Je ne sais pas pourquoi je vous disais, c'est une passion.
L'importance du mot et du livre.
Merci.
Du langage et du livre.
Merci.
Notre civilisation.
Le langage, l'importance du livre. On va peut-être regarder le nombril. Enfin, où seraient les hommes s'il n'y avait pas eu les éditeurs? Où en serait-il? C'est tout repose sur eux.
Oui, c'est. Bientôt, il y aura des robots qui vont écrire, donc on n'aura plus besoin d'auteurs.
C'est ça.
Même pas.
Ouais.
Même pas. Non. Bon, avec l'écriture, ça, l'écriture elle-même va changer, bien entendu. On aura besoin, non pas d'ordinateur, mais d'une espèce de programme où on appuiera sur un bouton et sur un écran fétiche, enfin un écran fictif plutôt, en face de nous, il y aura un effet de gris d'ail ou de gros soleil. Puis on mettra en scène des histoires qu'on racontera. En fait, j'avais commencé à écrire un bouquin là-dessus. Puis je n'ai pas su le terminer comme à l'ordinaire. Mais.
Ça a terminé quelques-uns quand même.
Sont-ils bien terminés, le genre, j'en sais rien.
Ah, mais ça, c'est en France qu'il faut leur demander, c'est déjà lu.
Ah oui. Mais ils se
taisent. Ils te le disent, c'est chaque fois que tu es à Sèvres, tu as regardé le monde que tu as.
Ils parleront après.
Ils parlent pas, regardez tous. Ils regardent. Ah oui, bah. Écoutez, c'est vraiment mieux à faire. Enfin, je vais passer le témoin.
Voilà.
Merci, Pézine. Moi, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Bon, écrire avec des champs tactiles ou des écrans ou tout ce qu'on veut et que l'histoire s'affiche, se monte devant nos yeux sur un écran, ça marchera très bien tant qu'on aura de l'électricité. Bon, donc moi j'en reviens à une question qui m'a été posée il y a quelques années, et j'ai répondu donc, par rapport aux moyens modernes, aux tablettes et à tout ça, j'ai répondu très simplement, j'ai dit je ne conçois pas d'être dépendant d'autre chose qu'une bougie pour arriver à lire. Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire, le livre je peux l'emmener partout, s'il n'y a pas d'électricité, je peux lire à la lumière du jour, quelquefois à la lumière de la lune, ou une simple bougie peut suffire. Bon, c'est déjà un monde en soi. Voilà. Donc ça, c'était simplement pour...
Une allumette aussi, hein.
Oui, mais on se brûle et ça ne dure pas longtemps. Donc il faut lire très, 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 très vite. Donc, pour revenir sur Rivière Blanche, donc, moi, j'aimerais... Bon, pas faire trop long, parce que je serais capable de vous tenir pendant des heures. Pour moi, Rivière Blanche, c'est d'abord une flamme qu'on entretient. Alors d'abord qu'on a rallumée et qu'on entretient. Donc, qui est ce qui a déjà été évoqué, c'est-à-dire la flamme de la science-fiction et un peu du roman populaire français, mais de bonne qualité, et en particulier à travers la continuation d'Anticipation. Donc, des vieux auteurs qui sont revenus en première ligne parce qu'ils avaient des textes inédits et ils avaient envie de continuer à publier, c'est très bien. Des jeunes auteurs qui se sont lancés, c'est très bien aussi. bon, des courageux, des fanatiques, des bénédictins, tout ce que vous voulez, qui ont replongé dans des œuvres anciennes pour les recartographier ou les cartographier complètement. Bon, je sais de quoi je parle, et Jean-Marc sait aussi, parce que le travail qu'on a fait sur l'univers construit par Maurice Lima, alors sans qu'il peut-être s'en rende compte lui-même, mais sans que les lecteurs et les éditeurs s'en rendent compte à l'époque, bon, l'univers que Lima a construit à travers des aventures qui étaient un peu cucu, un peu naïves, un peu datées, c'est un univers à part entière. Bon, l'univers que Jean Caudron, pardon, a construit à travers les space opéra, tendance policière, l'interco, mais bon, ça va de temps en temps vers la fantasy, vers d'autres domaines. Bon, la galaxie humaine de Lemay, c'est comme ça que j'ai appelé en sous-titre de l'étude sur Interco, c'est aussi un univers à part entière. On peut même l'apparenter par certains côtés à l'instrumentalité de Cordwainer Smith, parce qu'il y a autant de richesses dans l'inventivité, dans la terminologie, dans la beauté des noms, et finalement aussi peu de technique. Ça, c'est aussi une caractéristique qui joue pour le non-vieillissement des œuvres. Voilà, donc la continuation de l'anticipation, elle est très importante. Et j'irai, bon, pour toujours illustrer par une image, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de rêver la nuit que vous recherchez une anticipation que vous ne trouverez pas dans le monde réel parce qu'il n'a jamais existé, mais vous vous êtes imaginé qu'il y a une période blanche qui est parue en 1962 ou 63, alors c'était peut-être un auteur américain traduit, ou un Peter Handa que vous n'avez jamais vu, ou un Richard Bessières dont vous inventez même la couverture, vous imaginez comment est ce bouquin. Vous vous réveillez le lendemain matin, moi je sais que ça m'est arrivé une fois pour un Perry Rodan, j'ai fouillé mon carton de Perry Rodan originaux, bon, je pense que j'étais qu'à un premier stade de réveil. Et je me suis vraiment réveillé avec tous les bouquins originaux autour de moi, mettons les 60 ou 80 premiers, et j'ai dit, mais mince alors, celui que tu as lu cette nuit, tu l'as pas. Bon sang, mais c'est bien sûr, il n'existe pas. Alors, tout ça pour dire qu'à travers Rivière Blanche, quand on voit des ouvrages qui sont parus, notamment dans cette fameuse collection blanche, on peut s'imaginer qu'on a retrouvé des intercalaires perdus du fleuve nord d'autrefois. Et autre dimension importante, quand on lit Anticipation à partir de l'âge de 8 ans et qu'on se passionne pour la SF après s'être passionné pour Bob Morin, on ne peut pas rêver un jour de rencontrer Richard Bessières, on ne peut pas rêver un jour de rencontrer les auteurs de Perry Rodan, sauf en se disant, mais attends, mon pauvre petit, t'es complètement fada, jamais tu n'atteindras ces inaccessibles étoiles. Bon, le jour où ça arrive, déjà, c'est un événement. Le jour où on a son nom sur un bouquin qui a la même présentation qu'une anticipation de la grande période qu'on a adorée quand on était gamin et ado, c'est fabuleux. Et mieux encore, quand on a un bouquin qui sort sur lequel on a marqué Jean-Michel Archimbault d'après Richard Bessières, je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter. Donc l'aventure Rivière Blanche, c'est un peu tout ça. C'est des ouvrages perso dont je suis très content de les avoir écrits, mais encore plus content que Rivière Blanche les ait publiés et qu'ils aient eu l'accueil qu'ils ont reçu. Donc Space Opera, Tendance Wagnerienne, puisque c'est ma grande passion par ailleurs, et Recueil de nouvelles fantastiques, où bon, je suis assez, disons, intimiste, psychologique, bon, mais qui ne sont pas forcément inintéressantes non plus. Bon, il y a tout ça chez Rivière Blanche, la possibilité de faire des tas de choses, de s'amuser franchement quand on a envie, la suite des Borlocs, de faire du très sérieux quand on part sur une étude sur Interco, par exemple. Et il y a cet immense champ d'action qui est d'arriver avec une idée. Bon, on peut faire un mini dossier, peut-être de quelques lignes, quelques pages, et de dire, bon, Philippe, Jean-Marc, j'ai pensé à tel truc qui me ferait plaisir à faire. Et là, alors si vous avez déjà un peu travaillé avec eux, vous avez comme réponse, Banco mon gars, on te fait confiance, tu peux y aller, on sait déjà qu'est-ce que tu nous feras, sera bien. Donc ça, il n'y a pas beaucoup qui le disent, mais eux le font. Et après, ben, c'est pas forcément toujours dans le même temps que ça marche, c'est aussi ce que j'appelle monstre à voix de sirène après la nouvelle de Nathalie Enberg, c'est M. Jean-Marc l'officier qui de temps en temps débarque avec... en caressant bien, dans le sens du poil, ou dans le sens des poils ou des tentacules, comme vous voulez, et qui va dire, tiens, j'ai pensé que tu serais peut-être la bonne personne pour aller regarder, tu sais, Troisième Galaxie au fond du placard, là où il y a un auteur que tout le monde a oublié, mais je pense qu'il a bâti un petit univers qui mériterait d'être réexploré, revu, revisité. Éventuellement, tu peux écrire une histoire si ça t'inspire, tu peux demander à d'autres d'en écrire. Et donc Jean-Marc l'officier, qui est le grand tentateur devant l'Éternel, qui de temps en temps revient à la charge en disant, tiens, en fait, bon, Et comme on se connaît tous bien et qu'on sait tous comment on est câblé, ce genre de tentation est pratiquement toujours irrésistible. Et bon, ben, je ne dis pas on se fait avoir à chaque coup, mais c'est très très facile de dire oui. Même si après, c'est un sacré boulot. Donc Rivière Blanche, c'est très bien que les 10 ans soient atteints, c'est très bien qu'il y ait un catalogue aussi vaste qui existe aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment de tout, et pour tout le monde. Et ma conclusion, ça sera de dire, non pas le dernier éditeur avant la poubelle, mais moi, ce que je souhaiterais, c'est que ça soit le dernier éditeur avant la fin du monde. Voilà.
Bonjour, donc je suis Vincent Laïc et ben, comme tout le monde, je vais remercier Jean-Marc. Voilà, et parce que c'est le premier, je crois, éditeur de mémoire qui m'a donné ma chance pour quelques couvertures. Et il m'a dit, ben, pour l'instant, j'ai rien pour toi, mais dans quelques temps, si j'ai quelque chose en fin d'année, je te recontacte. Et ce que peu de monde fait, ben, il m'a recontacté. Et depuis, alors, il y a 5-6 ans, ou peut-être un peu plus, je ne sais plus, ben, soit il prend des couvertures, des images qui existent pour Rivière Blanche, soit il me commande quelques couvertures pour Black Code Press. Et pareil, quand j'ai vu les noms, alors mes camarades, c'est plutôt des noms d'auteurs qui les font rêver. Moi, c'est des noms d'illustrateurs comme ben, Stéphane Martinière. Quand j'ai vu que Stéphane Martinière, des couvertures de Stéphane Martinière étaient chez Rivière Blanche, j'ai dit bon, ben, s'il y a Stéphane Martinière, je vais dire oui quand même. Et voilà, depuis, ben, ça va, ça vient, mais à chaque fois qu'il me propose quelque chose, des fois je lui en propose spontanément, parce qu'avec un peu de chance, ça va finir publié. Et voilà, et puis après, je le connais moins bien que tout le monde. Pourtant, il est de Toulon.
Comme toi.
Comme moi. Donc c'est un plus aussi. Et puis voilà. Alors encore merci, et j'espère qu'on continuera à travailler ensemble.
J'y compte bien.
Alors ça va.
Je veux juste rajouter quelque chose concernant les illustrations, et je pense que ça, personne avant moi ne l'a dit. C'est extrêmement important, c'est-à-dire que quand vous avez un livre en préparation pour Rivière Blanche, vous avez aussi la possibilité de chercher, de choisir, de trouver une illustration existante et disponible qui vous convient. Donc ça, c'est vachement important parce que un éditeur qui vous publie un bouquin et qui va coller dessus une couverture qui ne vous plaît pas, c'est pas forcément sympa. Alors que là, il y a toujours une possibilité de voir, de regarder, de chercher, et bon, je dirais dans 99% des cas, de trouver l'illustration qui pour vous va coller le mieux à ce que vous avez écrit ou ce que vous allez écrire, quitte quelquefois, comme ça m'est arrivé récemment, à travailler une scène particulière dans le livre pour que ça reprenne un peu mieux la couverture et que quelque chose que vous n'aviez absolument pas prévu au départ trouve une correspondance entre l'image et le texte. Mais ça aussi, c'est extrêmement important. Je reviens sur Senta, qui est donc un de mes romans préférés, forcément, pour lequel l'illustration m'a été faite presque sur commande par quelqu'un qui est d'un talent absolument extraordinaire. Et bon, quand j'ai proposé l'illustration, ça a été, évidemment, c'est celle-là et c'est pas une autre. Mais bon, ça aussi, c'est un point important parce qu'on peut avoir un peu le look du livre tel qu'on le rêve, tel qu'on le veut. Et voilà, donc pour la partie image sur laquelle je voulais aussi m'exprimer.
Mais Jean-Daniel peut en parler des images parce que lui, il la cherche aussi.
Une fois par an.
Ouais. Oui, bah, parce que je n'ai strictement rien à rajouter à ce que vient de dire un petit camarade. C'est exactement la même expérience que j'ai eue. Alors, plus récente et à une échelle plus réduite, puisqu'il y a 5-6 ans, je me souviens, c'était à Colomiers, au mois d'août, à l'occasion d'une dédicace de quelqu'un que les amateurs de Rivière Blanche connaissent tous, qui est David Carat. Et donc, il y avait Philippe Ward qui était là aussi. J'avais rêvé d'une collection, qui reprendrait ou qui publierait pour la première fois en France des classiques du roman policier de ce qu'on appelle en France la Belle Époque. Donc des livres qui étaient très populaires en Angleterre, les Anglais ont appelé les rivaux de Sherlock Holmes, vous vous situez, et donc je savais tout faire. C'est-à-dire je savais choisir les livres, je savais les traduire, je savais reprendre les traductions existantes pour les restaurer, mais par contre je ne savais pas éditer. C'est être, faire un travail d'éditeur, c'est-à-dire essentiellement coller des enveloppes, aller à la poste, je ne sais pas faire. Donc, je me suis dit, pourquoi je ne proposerais pas la collection à Rivière-Blanche? Donc, je suis allé à Colomiers, où il y avait Philippe Ward, il y avait aussi notre ami Richard Desnolan. C'est lui qui m'avait encouragé, je crois, à aller voir Philippe. Donc, je prends Philippe à partie, je lui dis, voilà ce que je voudrais faire. J'ai fait, comme disait Archimbault, Jean-Michel, toujours c'est Jean-Marc,
ça
voilà.
Ça a changé.
Jean-Michel, comme disait Jean-Michel, j'avais préparé un dossier très argumenté, etc. Donc, je montre ça à Philippe, je lui en parle, et il a pris le temps de la réflexion, environ 3 secondes, il m'a dit oui. Il m'a dit, tu en parles à Jean-Marc, mais je suis sûr qu'il sera d'accord. Donc, je rentre chez moi, j'envoie un courrier électronique à Jean-Marc, un fichier attaché à mon petit dossier. Il m'a répondu, c'est parfait, il faudrait publier le premier bouquin dans 6 mois, où est-ce que tu en es? Bon, alors j'ai commencé à me mettre au travail. Et c'est ça, si vous voulez, j'ai, en tant que directeur de collection, puisque Baskerville, je dispose d'une liberté totale. De temps en temps, Jean-Marc me fait des suggestions, qui sont toujours très bonnes. Il dit, tiens, tu devrais t'intéresser à cet auteur que je connais peut-être mal, etc. J'ai une liberté totale, c'est moi qui choisis les livres, je décide comment je les publie, et je lui fournis aussi, en produit fini carrément.
Ah, totalement.
Je fais la maquette, il n'y a plus qu'à rajouter le numéro d'ISBN, les copyrights, etc., et le catalogue en fin de volume, et ça part à l'imprimeur. Et il y a, donc ça c'est la cuisine qu'évoquait Jean-Michel, c'est de trouver l'illustration de couverture. Et là, donc tous les ans, je me rends à Chalabre, alors à l'occasion du Salon du Livre de Chalabre, qui est internationalement connu, ou simplement pour aller faire un petit resto. Et donc je vais devant l'ordinateur de Jean-Marc et j'ai déjà préparé mon programme, c'est-à-dire qu'en général au mois de juin, je sais ce que je vais publier l'année prochaine, c'est prêt, il va y avoir des changements de dernière minute, mais bon, c'est rare. Et en fonction des titres que donc, je connais bien, je regarde dans la banque d'images, je dis, ah, tiens, ça c'est bon, il me suggère des choses, etc. Ah, j'ai reçu plein de dessins de Michael Hoffman, tu vois, c'est génial, oui, je connais, c'est génial. Et je compose les couvertures. Bon. Et j'ai donc, je veux dire, c'est dernier éditeur avant la poubelle, malheureusement c'est un peu vrai, parce que le projet de collection que je portais, je le sais, pas par mon expérience, mais par celle de gens qui voulaient faire la même chose, les éditeurs établis, les éditeurs parisiens n'en veulent pas. S'ils n'ont pas confiance dans les vieilleries, ils pensent que tout a déjà été dit, tout ce qui est bon a déjà été publié, que si on n'a jamais publié ces bouquins-là, c'est qu'ils n'en valaient pas la peine. Bon, bien évidemment, ils se trompent. Et donc, je m'efforce de les détromper et surtout de faire découvrir les livres que j'aime aux lecteurs. Voilà.
Voyons.
Je remarque que vous ne m'applaudissez pas. Ouais, bande de lâche. Ah.
Moi, je vais revenir sur quelques petites anecdotes au passage sur des sujets qui ont été évoqués par nos amis. Quelques grands moments touchants de l'histoire de Rivière-Blanche. C'était en décembre 2004, juste avant qu'on lance notre maison d'édition. J'étais chez Philippe. À l'époque, on cherchait une maison, pour tout vous dire. Et Philippe avait déjà rassemblé des numéros de téléphone d'auteurs d'anciens auteurs du Fleuve Noir qui étaient susceptibles d'être contactés. Et l'un de ces numéros de téléphone était celui de Jean Lombard, c'est-à-dire Max-André Régent. Et Philippe, intimidé par la présence du grand ancêtre potentiellement au téléphone, m'a laissé le soin de lui téléphoner. Donc c'est moi qui appelais M. Lombard, ça m'arrive encore de le faire récemment. Et c'était un moment, comme a dit Philippe, pour moi c'était un moment d'émotion de parler à Max-André Régent, dont j'avais lu tous les romans finalement, et dont certains je me souvenais très particulièrement, comme le 4e Futur par exemple. Et c'était très touchant parce que M. Lombard était effaré qu'un éditeur le contacte. Et il a eu cette très belle phrase qui est vraiment émouvante, qui était « Mais enfin, êtes-vous sûr que quelqu'un s'intéresse encore à moi ?» Eh bien, je dois vous dire que moi, j'étais touché, je me suis dit, ben, si on n'existe que pour ça, c'est déjà quelque chose. Une autre anecdote du même genre, c'est M. Caroff, André Caroff.
Ah oui.
Donc, bien sûr, je n'ai pas besoin d'expliquer qui il est. Nous avons mis du temps à retrouver la trace d'André Caroff. Il n'était pas si facilement trouvable que ça. Mais nous avons fini, je ne sais d'ailleurs pas par qui. C'était pas quelqu'un du milieu, non?
Non, c'est pas trouvé sur sa fille.
Je crois que c'est par sa fille. Ouais. Enfin, j'ai réussi à retrouver André Caroff, qui vivait à l'époque à Annecy. il avait déjà un âge avancé et qui était affligé d'une problème de cataracte, enfin bref, qui était quasiment aveugle, et qui a été aussi absolument ébahi que quelqu'un s'intéresse encore à lui.
Pour vous donner une idée, André Caroff écrivait des nouvelles sentimentales dans les revues féminines, et il a dirigé pendant de longues années avec son épouse un cabinet de voyance, après avoir écrit tous les romans. Il a écrit plus de 1200 nouvelles dans, je ne sais plus ce que ça s'appelait, tous ces journaux qui étaient... Ils ont écrit plus de 1200 nouvelles, donc la SF, il ne les connaissait plus.
Et alors, on a bien sûr commencé avec les Madame Atomos. J'avais commissionné un portrait de Madame Atomos par le dessinateur Jean-Michel Ponzio, qui est un artiste parisien de talent, qui avait fait un superbe portrait de Madame Atomos. En fait, il y en a fait deux qui illustrent nos livres. Si vous les avez vus, vous êtes familiers. Et j'ai envoyé ça à M. Caroff, et je crois que sa femme lui a vu ses problèmes de vision. Son épouse lui a en fait décrit le portrait, mais quand je lui ai au téléphone, il était quasiment en larmes. Il m'a dit: Monsieur l'officier, c'est vraiment Madame Atomos telle que je la voyais. Et alors, vous savez, on est honnête, on a toujours été très, très transparent avec nos auteurs jusqu'au point de la bêtise parfois. Et j'ai dit: vous savez, Monsieur Caroff, je tiens à vous prévenir honnêtement, vous savez, vous n'avez pas gagné beaucoup d'argent avec nous. Hein, c'est pratiquement une des choses que j'annonce, et c'est de plus en plus vrai, hélas. Et il m'a dit, alors il a dit, Monsieur l'officier, de l'argent que j'en ai eu, j'en ai plus besoin maintenant. Et il s'est remis à écrire pour nous. Il a écrit cette série, enfin il n'y a pas de titre spécifique, de la série du mandarin, on va dire, qui est une espèce de longue suite d'aventures post-apocalyptiques. C'est un peu de l'écriture automatique par certains côtés, mais ce n'est jamais inintéressant, en tout cas ça se laisse lire. Et par la suite, il est mort quelques années plus tard. Il est d'ailleurs décédé l'année avant où on pensait l'inviter à Sèvres. On avait mis en branle tout l'appareil, l'infrastructure nécessaire avec M. Rivera. Et sa fille, enfin l'une de ses deux filles avec laquelle je suis toujours en contact, m'a dit, ça m'a aussi beaucoup touché, « Monsieur l'officier, vous avez éclairé les dernières années de vie de mon père. » Enfin, quand M. l'officier, c'est Rivière-Blanche, bien sûr, hein, c'est nous tous, entendons-nous bien. Ça, c'est vraiment des moments, ces moments qui nous ont touchés, et je pense que l'une des raisons fondamentales d'exister de Rivière-Blanche, il y en a d'autres, la découverte de nouveaux auteurs, comme l'a dit Philippe, dont on est très fier maintenant qu'il y en a plusieurs qui ont trouvé des places chez de grands éditeurs, le côté dernière étape avant la poubelle qui permet de publier des choses de valeur et de mérite, mais qui seraient totalement impubliables par ailleurs, certainement, mais également de pouvoir avoir rendu à ces auteurs qui nous ont tant inspirés, comme M. Caroff, M. Régent, certainement M. Rigaud ici présent, une chance de compter à nouveau dans le milieu de l'édition et de pouvoir s'exprimer et de pouvoir tenir entre les mains des ouvrages avec leur nom dessus. Et il ne décroche pas, M. Piret, en dépit de problèmes de santé sérieux, M. Daniel Piret continue de nous envoyer des ouvrages. J'ai remis aujourd'hui à Philippe un manuscrit que j'ai reçu de M. Régent. C'est pratiquement du voyage dans le temps. Le manuscrit a été tapé sur une vieille machine à écrire non électrique, avec un ruban qui a priori n'a pas dû être changé depuis 1972. Et... Sur un papier dont les Égyptiens auraient envié la trame et corrigé à la main par-dessus au crayon feutre, le manuscrit lui-même est une antiquité qui mériterait d'être conservée sous un globe de verre. On va bien sûr, grâce à l'aide d'un bénévole, je rends hommage ici en passant à un autre collaborateur disparu et très regretté, Serge Parmentier, qui pendant des années a assumé tout un travail de correction et de retraitement de manuscrits d'auteurs d'anciens. Donc là, on va traiter le manuscrit de M. Régent. Il sera publié sans doute en 2015 ou en 2016, suivant le calendrier, etc. Mais c'est ce genre de moment qui compte dans la vie de notre maison d'édition. Je parlais tout à l'heure, Philippe parlait des nouveaux auteurs. Il est certain que de voir des gens comme Thomas Géa, David Carat, Simon Sanahujas, Selig, par exemple. En fait, que Selig avait déjà une réputation avant de venir nous voir. Mais est-ce que tu en vois d'autres, Philippe? Je pensais à Carat, Torgia,
Laurent Wayne. On a publié le premier roman.
Voilà.
Il doit y en avoir d'autres à chercher.
Oui, des gens.
Vous avez accueilli Anne Duguay, Gudule aussi.
Oui, alors ça, c'est l'autre aspect.
C'est
qu'est-ce que ces gens-là viennent faire chez nous.
Voilà.
Quand on reçoit un manuscrit de Jacques Sadoul, deux manuscrits de Jean-Pierre Andreau, bon. Un excellent roman de Hugues Douriot. On se dit, mais enfin, où sont les autres? Parce que, bon, je comprends bien qu'il n'y ait plus d'éditeurs sur la place de Paris qui veulent publier Max-André Réjean. Je ne suis pas complètement idiot. Bon, je comprends bien que Dimension tchécoslovaque, ça ne se presse pas au portillon pour publier ça. Bon, je comprends bien que le docteur Oméga ou Homo Deus de 1926... Bon, mais quand même, quand on voit arriver un manuscrit de Jacques Sadoul comme Le Miroir de Drusilla, qui est en plus une histoire de vampire, dont on me dit que c'est à la mode, Jacques Sadoul représenté par l'un des meilleurs agents littéraires de Paris, l'agence Lanclus, pour ne pas les nommer, qui sont des gens très bien, très compétents, qui font un boulot excellent. Pourquoi il est chez nous? Il y a une carence de vision, il y a une carence d'imagination, il y a une carence de compréhension du marché, de l'édition française dans son ensemble, qui, en dehors du best-seller garanti, où effectivement, bon, publier Stephen King ou Valérie Trierweiler, c'est pas prendre un grand risque. En dehors de ça, à un moment donné, le marketing est là pour prendre la relève, et les bouquins, ça se vend aussi. Si c'est un peu comme aller au casino, l'édition, c'est un petit côté risqué, c'est certain, mais si ces gens-là ne veulent pas l'aspect risque de l'édition, peut-être qu'il devra à ce moment-là envisager de se recycler dans la vente de chaudières ou quelque chose d'autre. Donc, cet aspect de Rivière Blanche qui est, comme dit Philippe, qu'on voit arriver des gens très bien chez nous, dont on est les premiers surpris, c'est toujours étonnant. Mais si on n'était pas là, ça serait encore plus catastrophique parce que ces bouquins-là, vous ne les verriez pas. Regardez, récemment, Philippe a eu le nez de publier, tu pourras raconter comment ça s'est passé, parce que je ne vous connais pas, mais le recueil des Belles Masses. Bon, c'est un bouquin qui aurait dû être publié il y a longtemps, ça. Pourquoi il est chez nous?
Parce qu'ils n'ont pas eu de chance. Hein. Parce qu'ils ont été publiés chez SF, qui a fait faillite. Ils sont partis chez Mélis, qui existe sans trop exister. Et puis, ils ont été oubliés, comme beaucoup d'auteurs. Ils ont été oubliés. Il y a beaucoup d'auteurs que... J'appelle ça le syndrome de l'océan du mal démarré, c'est-à-dire que des fois l'auteur il monte, il va être oublié. Et puis il faut penser qu'il y a tous les jeunes qui débarquent et qui disent vous êtes vieux, vous poussez, vous êtes édité. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, donc c'est pour ça que moi j'aime publier des jeunes qui ont 22, 23 ans aussi, parce que je leur donne une chance et qui vont peut-être arriver. Mais je ne les abandonne pas. Je veux dire, ce n'est pas parce que j'ai publié un roman qu'on va les abandonner. Je vais dire que Thomas Géard l'a accompagné. On a discuté avec lui, on a trouvé des rééditions d'autres éditeurs, et après ils font leur vie. Laurent Wall, il fait sa vie. Mais moi, ce qui me touche énormément, c'est que tous ces auteurs, un jour ou l'autre, ils reviennent chez Rivière Blanche, ou ils sont avec Rivière Blanche. Il y a deux exemples, c'est Thomas Géard, qui après être réédité est revenu, c'est Pégiro qui veut écrire pour nous aussi. Et puis c'est David Carat. David Carat, je veux dire, j'ai publié un livre, il part après dans la stratosphère et tout, et ailleurs. Mais il est revenu chez nous pour nous faire un don, pour dire, mais moi je veux que deux jeunes auteurs soient invités à un salon du livre. Je vous donne de l'argent pour ça. Et c'est ça, moi, qui me touche. C'est des auteurs avec qui on va continuer. On va continuer. Ils sont là. On a fait un travail ensemble. Et bien, ils vont revenir parce que ce travail est bien. On a peut-être eu des frictions, autre chose, parce que ça, c'est normal. Mais... voilà, et c'est ça moi qui me touche beaucoup, c'est que tous ces auteurs, un jour ou l'autre, vont revenir pour nous proposer. Je veux dire, Simon Sanogja s'est parti ailleurs, son dernier roman, bon, il a eu des problèmes, mais il est revenu vers moi, et moi, c'était plaisir que on a retravaillé ensemble. Et c'est peut-être aussi ça, de travailler avec ces auteurs, que jamais je les abandonnerai. On continuera, même si je n'ai pas le temps de m'occuper de 250, c'est dommage, mais c'est vrai que chaque fois, on essaye à trouver autre chose. Alors, il y a cet éditeur qui se montre, va peut-être les voir. Là, il y avait Olivier de Paris, pareil, il va. Là, il y a Alain Blondelon, pareil, il y a Alain Blondelon, il y a plus de deux chez nous. Et puis, péché armada du ciel, il va plus bien chez nous. Et c'est pour ça que j'attends toujours le prochain péché héros. Qui sera là. Voilà, et c'est peut-être pour ça aussi que Rivière Blanche, moi j'adore ça, parce que je sais qu'il y a des retours. Il y a très peu d'auteurs, dont je crois que j'ai pratiquement rencontré tous les auteurs, soit par de visu, soit par téléphone. Il y en a très peu que je n'ai pas rencontré, mais il y a toujours eu ce contact. Et c'est ça qui était très bien.
Je vais ajouter aussi que c'est. On a un aspect un peu missionnaire dans notre travail. Et la Côte Presse, grâce à l'industrie de Brian Stableford, on publie aussi 3 bouquins par mois, on publie des traductions d'auteurs du 19e siècle, voire même plus tôt, dans le domaine public. Mais j'ai fait un effort pour trouver une niche, pour introduire les auteurs français de science-fiction. Avec le recul du temps, je n'ai pas été chercher jusqu'aux dernières années, mais disons des... au public américain. Et c'est ainsi qu'on a eu la joie, le plaisir et l'honneur de publier, par exemple, en sous forme de 2 romans. J'accole souvent plusieurs romans du Fleuve Noir à un seul livre pour des raisons techniques et économiques. On a donc publié 4 Richard Bessières en langue anglaise. Ça ne s'était jamais fait. On va publier 3 Maurice Lima. On va publier 2 fois 3 Jimmy Gueux, donc 6 Jimmy Gueux. On va publier Les clones des Villans de P.J. Hérault.
De Madame Atomos.
Ici, on a publié l'intégrale des Madame Atomos dans les Karoff. On a publié un bouquin de Gérard Klein, un bouquin de Michel Jury.
L'orthogue de Steiner.
Comment ?
L'orthogue de Steiner.
On a publié l'orthogue de Kurt Steiner. Oui. J'ai essayé d'avoir les droits de bouquin de B.R. Bruce, mais je n'ai pas réussi. Mais sinon, on l'aurait certainement fait.
Jean-Claude Dignac.
Lequel ?
Jean-Claude Dignac.
Oui, bien sûr, on a publié 2 recueils de nouvelles de l'ami Jean-Claude Dignac.
Exact. Philippe Ward et Sylvie Miller.
Philippe Ward et Sylvie Miller.
Jean-Marc l'officier, Randy l'officier aussi.
Oui. Donc, on s'efforce, je ne dirais pas qu'on est comme une association à but non lucratif. Il ne faut pas quand même exagérer. Mais enfin, on s'efforce dans l'ensemble de réinvestir les bénéfices qu'on fait dans une certaine conception de la préservation de notre héritage culturel et de sa propagation dans la mesure où on peut. Et je sais que sur notre forum, j'ai souvent encouragé les gens, je fais passer le message, à commander les bouquins directement chez nous plutôt que de passer par des libraires ou des intermédiaires, parce que simplement, ça permet de mieux rémunérer les auteurs. Il est certain que si vous achetez un bouquin directement à Rivière Blanche 20 euros et que vous l'achetez à la FNAC pour 20 euros, vous enrichissez Monsieur P.J. Hérault de 6 euros et vous enrichissez Rivière Blanche de 6 euros. Dans l'autre cas, vous enrichissez Monsieur P.J. Hérault de 1,50 euros. Vous enrichissez Rivière Blanche à 1,50 euros et vous enrichissez Monsieur Trigano de 12 euros. Donc, il faut savoir sur vos 20 euros que vous avez durement gagné à la sueur de votre front musclé et généreux, qu'est-ce que vous préférez, qui vous préférez enrichir, Monsieur Trigano, qui a certainement besoin de ces 12 euros pour assurer ses fins de mois, ou on va dire le collectif ou l'association que nous représentons, qui va utiliser cet argent pour publier des choses où on va vendre 13 exemplaires, mais qui méritent d'être publiés. Donc, c'est ça un peu l'esprit de Rivière Blanche. Depuis le début et qu'on maintient qui permet à la fois de publier de nouveaux auteurs qui n'ont pas d'autres débouchés que nous qui permet de redonner une vie à des anciens auteurs méritants qui n'auraient jamais dû être mis à la porte de la façon dont ils l'ont été qui permet d'accueillir des ouvrages qui franchement je confirme mon étonnement mais franchement devraient être publiés mieux que chez nous mais bon. Il n'y a plus que nous la poubelle, hein, autant que ça soit chez nous. Bon. Et c'est donc grâce à la... Et en ce moment en particulier, je dois dire, les ventes papier sont en baisse. Hein. C'est pas que nous, hein, l'édition, c'est même aux États-Unis, c'est pareil. Mais l'édition papier accuse un coup. Aux États-Unis, on gère des e-books. En France, on ne le fait pas pour des raisons techniques et financières. Mais il faut vendre 3 e-books pour gagner à peu près la même somme qu'un livre papier. Donc il faudrait en fait que les ventes soient multipliées par 3 sur le même ouvrage pour pouvoir s'y retrouver. Or, notre produit étant un produit par définition de niche, il n'y a pas d'élasticité sur ce produit. C'est-à-dire que si je vends 100 exemplaires de Dr Omega, j'en vendrai pas 120 parce que je vais baisser le prix. Il y a 100 fondus qui s'intéressent à ce truc-là, ils sont que 100, ils ne sont pas 102. Bon, donc la différence, c'est soit je les vends 100 exemplaires à 20 dollars, ou j'en vends 50 à 20 dollars et 50 en e-books à 5 dollars. Je touche les mêmes 100 personnes, mais mon cash flow aura accusé un coup de... Bon. Donc, par les temps qui courent, je ne suis pas fier, j'ai pas peur de vous demander de faire de la publicité autour de vous. Si vous pouvez motiver des gens, surtout là, on a une promotion attractive pour Noël, où on a en fait étendu le prix libraire, le bénéfice des remises libraires à tout particulier qui achète 5 livres, je crois, ou 6 livres, je ne me rappelle plus. Donc, si vous pouvez en profiter, c'est l'occasion ou jamais. Peut-être on va prendre quelques questions.
Voilà, c'est pour ça que le repas, si vous avez des questions.
Voilà. Oui.
Si je vous ai bien compris au début, en théorie, à votre catalogue, il n'y a pas de titre épuisé. Il ne peut pas y en avoir.
Sauf si les auteurs, et nous le souhaitons,
voilà,
trouvent un meilleur un éditeur, mais pas forcément meilleur, un éditeur plus conséquent pour la réédition de leurs œuvres.
Qui insiste
qu'il n'y ait pas d'autres exploitations concurrentes et qui demande. Auquel cas, tout auteur chez nous est libre sous 30 jours de récupérer l'intégralité des droits de son œuvre. C'est sans précédent dans l'édition. Il y a beaucoup de contrats à 70 ans, fin de siècle. Donc, chez nous, à tout moment, vous n'êtes pas satisfait. Robert Laffont vous fait un pont d'or, Steven Spielberg vient vous voir.
Et on ne gagne rien.
On ne gagne rien. On ne prend pas 50% de vos droits. On vous facilite la chose. Voilà. Alors, il y a des éditeurs, et c'est compréhensible, qui ne veulent pas d'exploitation concurrente. C'est tout à fait légitime. Auquel cas, on marque le titre comme épuisé. Techniquement, le fichier est toujours dans notre mémoire centrale. Donc, il pourrait être réactivé à n'importe quel moment. C'est juste qu'on ne l'exploite plus. Il y a des éditeurs plus compréhensifs qui estiment que l'édition est une nouvelle édition, revue et corrigée, en fait, etc. C'est le cas des ouvrages de Sanahujas, je crois.
Oui, mais Christophe aussi. On en a mis épuisé.
Non, lui, il en a mis épuisé.
On l'a mis épuisé parce que c'est pas pareil. Voilà.
Oui.
Donc, on choisit. Parce que voilà, on décide avec l'éditeur.
Voilà, pour nous, c'est bonnet blanc, 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 voilà. Et dans ce cas, on laisse l'ouvrage au catalogue. Voilà.
Mais après, oui, c'est vrai que là...
Je rajoute un détail, dans la collection Baskerville, il y a un ouvrage qui est définitivement épuisé.
Oui, c'est exact.
C'est La Cité sans nom de Vladimir Dostoïevski, qui a été un ouvrage dirigé par Patrice Lajoie. C'est parce que Patrice vient de lancer sa propre maison de petite édition pour rééditer des Russes. Il a souhaité reprendre ce livre, on lui a dit d'accord. Et donc, pas de concurrence déloyale. Maintenant, en Rivière Blanche, il est officiellement épuisé. Et parallèlement, l'année prochaine, je vais avoir deux titres de ma collection qui vont être repris en poche chez Elios. Et là, c'est moi qui ai choisi, à titre expérimental, de les mettre épuisés en Baskerville.
Tout à fait.
Donc, si vous voulez le loup solitaire en Baskerville, dépêchez-vous.
Il a raison, c'est vrai que, quelque part, ces éditions deviendront des collector's items, éventuellement, parce qu'elles n'existeront plus dans le marché.
Donc, en théorie, pour revenir à quelque chose de plus précis, un titre qui est chez vous ne peut pas disparaître. S'il sort de chez vous, ça veut dire qu'il apparaît...
C'est exact, oui. À moins que l'auteur, on peut toujours imaginer juridiquement, ça tiendrait debout, le cas de scénario. J'ai un cas assez bizarre qui n'est pas identique, mais vous savez qu'on a publié des... on est vaguement associé à la relance du Nictalope de Jean de Bahir. On a republié en particulier le Nictalope contre Lucifer, qui, à mon avis, le chef-d'œuvre de Jean de Bahir, dont on a vendu remarquablement 75 exemplaires.
Okay.
76. Enfin bref, j'ai reçu il y a un an, c'est pas confidentiel, donc j'ai reçu une lettre d'une avocate parisienne qui représentait les héritiers de Jean de Lahire. Donc j'ai tout de suite proposé, j'ai étalé nos chiffres de vente. Et je lui ai tout de suite proposé de lui faire le même chèque que j'aurais fait à Madame Bessière ou à l'héritier Lima, à condition qu'il me signe un contrat. Le même d'ailleurs contrat que Bessière ou Lima auraient signé, hein, en disant bah, écoutez, je suis content que vous manifestiez. Depuis que votre ayant droit s'est échappé de prison après la libération et avait fui, j'avais vaguement perdu sa trace. J'avais cru comprendre qu'il était décédé. Mais je suis heureux que vous manifestiez.
Il s'est rendu.
Oui.
En 1954, il est mort un peu après.
Oui, d'ailleurs, ils ne l'ont pas forcé quand il s'est rendu à purger sa peine.
Non, parce que la réhabilitation nationale avait été prononcée.
Oui. Enfin bref. Oui, donc l'avocate était tout à fait d'accord, parce que c'était pour être franc, ça représentait un paiement d'environ 500 euros, à plus ou moins quelques centimes. Par la suite, j'ai appris, alors là par la bande, que je ne sais pas combien il y a d'héritiers de Jean de Maillard, mais il y en a un qui refuse absolument que l'œuvre du grand disparu soit rééditée, et donc le contrat est resté lettre morte. Le chèque n'a donc pas été écrit, je ne vais quand même pas payer de l'argent pour rien. Mais personnellement, ça m'indiffère royalement, et le bouquin est toujours en catalogue. Non, je le vends. Pour moi, la balle est dans leur camp.
Attends qu'ils t'interdisent, quoi.
Voilà. Ah, mais ils peuvent pas m'interdire, ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc là, pour l'anecdote, on a un cas assez amusant d'un bouquin qui existe dans une espèce de no man's land juridique. À que va,
hein. De toute façon, c'est quoi? Oui. C'est 70 ans maintenant.
Oui, mais ça c'est pas encore. Comme a dit monsieur, il est né, il est mort en 54, non?
C'est 70 ans de la date de parution.
De la mort de l'auteur.
De la mort de l'auteur.
Oui, oui. Ah bon, 70 ans de la mort de l'auteur. Donc 56 plus 70, on n'y est pas encore. Voilà.
Oui.
Oui, 70 ans de la mort de l'auteur, oui.
S'il n'y a pas de bande de prolongation.
Oui, voilà. Oui. Donc là, on a effectivement un cas d'un livre particulièrement particulier qui est dans une espèce de situation un peu ambiguë, mais visiblement, enfin, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts depuis, je n'ai pas eu de nouvelles. Moi, j'estime que j'ai fait ce que mon devoir m'oblige à faire, c'est-à-dire payer exactement ce que j'aurais payé s'ils avaient connu leur existence plus tôt.
Pourtant, vous avez exploité le personnage.
Oui, ça c'est encore, autre chose.
Mais ils touchaient de l'argent là-dessus. Quoi,
oui.
Il y avait même sur les nouvelles écrites du Nictalop, ils avaient.
Oui. D'ailleurs, je leur donnais 50% sur l'ouvrage d'Emmanuel Gorlier, ce qui n'était pas formidablement sympathique pour le malheureux Emmanuel Gorlier, mais enfin qui avait estimé que, bon, généreusement, pour marquer le coup, ça valait la peine d'être fait. Donc là, on a un cas qui est un peu tangent.
C'est vrai que nos livres ne seront. Tant qu'on sera là, tant qu'il y aura l'imprimeur, ils ne seront jamais épuisés.
Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre.
Parce que ça va être l'heure. Il y a l'apéro qui attend.
Bon, on est bon.
Oh là.
Mais merci beaucoup.
Tu vas faire des mouvements de
fou. Merci beaucoup.